Isabelle Fontaine, bonjour.
Bon matin, Steve.
On doit parler ensemble de Jane Philpott. Avais-tu envie de réagir avant à Homer, peut-être?
Écoute, ben, je trouve quand même amusant la prise de bec qui a eu lieu hier soir au conseil municipal. Je ne sais pas exactement si c'est l'illustration d'une tension un peu plus grande dans les travaux, là, mais c'est quand même pénible à écouter. T'es deux adultes comme ça qui tentent d'avoir le dernier mot pour quelque chose de pas si important, finalement.
C'est
un peu gros.
Ben, en tout cas, je veux pas rien enlever au motoneigiste, c'est pas ça, mais la prise de bec, t'es pas pire.
La prise de bec, t'es pas pire. Puis même, il n'était pas du tout question des motoneigistes, finalement, dans la prise de bec.
Non.
Il était juste une question de ton, là.
Une question de personnalité, je pense.
Voilà. Mais écoute, tout ça n'a rien à voir avec l'ampleur de ce qui se passe à Ottawa.
C'est vrai.
Quand même incroyable.
Ben, Jane Philpott, Conseil du Trésor. Conseil du Trésor qui démissionne, quand même, qui démissionne de son poste de ministre, là.
Absolument. Puis. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que jusqu'à maintenant, on pouvait croire que Jody Wilson-Raybould était un peu seule. Tu sais, elle était solide, ses arguments sont clairs, mais elle était seule. Et bien là, boum, hier, juste avant que Gerald Butts témoigne demain devant la commission parlementaire, une ministre démissionne pour lui donner son appui. C'est pas n'importe laquelle. Jane Philpott était présidente du Conseil du Trésor. C'est un poste important dans un gouvernement. Et elle avait déjà annoncé qu'elle se représenterait pas aux élections. Donc, c'est quand même... incroyable de démissionner de son poste de ministre à ce stade-ci, à quelques mois des élections, alors qu'elle aurait pu simplement choisir de laisser passer, de se faire discrète jusqu'à l'élection et de ne pas se présenter. Non, elle choisit délibérément, maintenant, d'exprimer sa dissidence, de dire publiquement qu'elle n'a plus confiance envers le gouvernement et de se retirer, infligeant comme ça une blessure quand même importante à celui-là même qui l'a amené en politique. T'sais.
Et celui qui vient tout juste lui donner une promotion...
Absolument, absolument. Puis ça m'amène à mettre ça en perspective. Tu sais, en 2015, avant la campagne électorale, Justin Trudeau a quand même surpris tout le monde en recrutant une équipe de candidats solides, de très grande qualité, de tout horizon. L'entrée en poste d'une nouvelle génération de politiciens, faisant par le fait même oublier le vieux Parti libéral du Canada, celui des scandales des commandites, en tassant une vieille garde pour la remplacer par une équipe incroyable, alors qu'il était troisième dans les sondages. Puis il a continué cet exercice de séduction avec l'électorat canadien en réussissant à remporter l'élection, ce qui était quand même spectaculaire. Puis c'est comme si, là, oups, la magie n'opère plus. Elle n'opère plus, en tout cas, auprès des gens qui sont autour de lui, qui ont décidé de faire le saut en politique pour lui, tu sais. C'est comme, il a mis sur la map des personnages incroyables.
Qui sont retournés contre lui.
Là, c'est ça. Mmh. Il est en train de se faire bouffer par le monstre qu'il a créé.
J'ai envie de te demander, Isabelle, toi qui es une spécialiste en communication, en stratégie politique, Isabelle Fontaine, tu fais quoi si tu es à la place de Justin Trudeau pour te sortir de là? Et tu fais quoi si tu es candidat présentement? Est-ce que tu demeures dans le navire ou tu reviens de bord?
Si t'es candidat présentement ou tu es en train d'y réfléchir, là, tu laisses aller, tu restes le plus loin possible du terrain, des caméras. Si t'as pas encore pris ta décision, tu prends tout le temps que t'as devant toi pour la prendre. Si tu l'as déjà pris, tu te fais discret. Si t'as déjà été investi, tu te fais discret, t'attends que la crise passe. Parce que si t'interviens maintenant, tu t'impliques en quelque sorte dans la crise.
Moi, je me mets là. Ça, oui, tout à fait, mais moi, je me mets dans la peau, mettons, d'un candidat, d'un député présentement. Mettons, t'es pas ministre, t'es député en Colombie-Britannique. Tu restes avec les libéraux ou tu dis, tiens, moi, je m'en vais indépendant?
Bien, en fait, c'est parce que si tu décides d'aller indépendant, tu remets en cause ton élection. Tout dépend de la circonscription dans laquelle tu es. Mm-hmm. Mais un changement de parti ou un indépendant, quand t'es indépendant, c'est super difficile d'être élu.
OK.
Mais un autre détail sur ce qui s'est passé hier, puis ça, c'est peut-être ce que Justin Trudeau devrait faire maintenant. On sent qu'il a perdu le contrôle de sa gang. Hier, il a dit qu'il n'était pas encore sûr de l'avenir de Mme Wilson-Raybould dans le caucus libéral, alors qu'elle, elle dit clairement qu'elle va y rester, qu'elle continue d'y militer, qu'elle ne remet pas en cause son adhésion au Parti libéral. Pourquoi elle fait ça, à ton avis, tu sais? Parce que, je pense, elle a l'impression qu'il y a un avenir pour elle dans ce parti-là. T'sais. Justin Trudeau n'est pas du tout immortel. Mm-hmm. Il y aura un après Justin Trudeau. C'est tôt pour y penser. Mais s'il y a certaines personnes à l'intérieur de son gouvernement qui en sont déjà à penser à l'après, alors qu'on n'a même pas traversé une réélection puis un deuxième mandat, ça veut dire que l'ambiance puis la cohésion à l'intérieur est un peu fragile, à mon avis.
Puis ça me fait sourire parce que je me dis, Andrew Scheer, là, il va-tu se ramasser premier ministre par dépit?
Écoute, c'est pas impossible. tout est encore possible d'ici l'élection. Il reste de longs mois. On aurait pu croire que cette crise-là allait s'estomper rapidement, mais elle continue de durer. On va avoir le prochain épisode demain avec Gerald Butts. Écoute, on va pouvoir en parler encore. Mm-hmm. Fait que, comment est-ce que Justin Trudeau peut s'en sortir à partir de maintenant? C'est dur à dire. Ça prendrait un coup d'éclat important, mais je vois pas très bien d'où il peut venir.
T'attends-tu à d'autres démissions, à d'autres gens, d'autres ministres qui vont laisser leur poste comme ça?
Écoute, c'est vraiment pas impossible. Je sais pas s'il y aura d'autres démissions de ministres, mais là, on sent bien, tu sais, Mme Philpott, Mme Wilson-Raybould ont des appuis. Hein. Il y a d'autres femmes, d'autres députés qui sont sortis hier pour dire qu'elles appuyaient ces deux femmes-là. On peut croire qu'il y a peut-être aussi d'autres groupes à l'intérieur du Conseil des ministres ou à l'intérieur du caucus qui pourraient se former, d'autres gens avec des ambitions différentes ou avec des ambitions pour l'après M. Trudeau. Donc, tout ça va teinter la politique partisane à l'intérieur du PLC jusqu'à l'élection, puis après.
Mais Isabelle, n'est-ce pas particulier que de la part du féministe premier, il se fasse finalement frapper par en arrière par son groupe de femmes?
Se fait frapper par en arrière par son groupe de femmes. Par qui il se fait frapper? Il se fait frapper par des gens avec qui il y a une dissidence profonde dans ce qui aurait dû être fait sur SNC-Lavalin. C'est ça le fond
de la question. En même temps, présentement, c'est une rébellion féminine, là, on va se le dire. Là.
Oui, mais il n'y a personne qui prétend que c'est une... Les femmes, elles ne se positionnent pas là pas comme ça. Elles ne sont pas en train de défendre les intérêts de femmes. Elles disent pas que les femmes sont mises de côté, rien de ça. Elles disent qu'elles ont une conception différente de Justin Trudeau, du rôle du système judiciaire et de comment on aurait dû utiliser l'outil okay. de l'entente de réparation avec SNC-Lavalin. Donc moi, je suis pas prête à dire. Okay. Je comprends que là, ça donne que c'est quatre femmes.
Quel hasard quand même!
Mais en même temps, c'est un enjeu de fond sur le fonctionnement même de nos institutions. Là. C'est quand même impressionnant.
Isabelle Fontaine, merci beaucoup.
Merci, à
demain. On se reparle demain.